franceinter.fr.
Deux crânes vieux de 125 et 105 000 ans découverts en Chine et qui pourraient permettre enfin de mettre une tête sur le mystérieux homme de Denisova.
Un de mes principaux collaborateurs m'a appelé. Et là, il m'a dit qu'il avait analysé l'ADN de cette petite phalange et que c'était quelque chose de différent, quelque chose d'inconnu. Ce n'était ni Néandertal, ni l'homme moderne.
Et c'était la voix du paléoanthropologue Svante Pebe à l'origine de la découverte en 2010 dans la grotte russe de Denisova. Et aujourd'hui, bien, on a plus qu'une petite phalange. Ce sont deux crânes qui ont été découverts par une équipe chinoise avec une publication dans la revue Science. Et pour nous en parler, Jean-Jacques Hublin est avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck de Leipzig. Et ça y est, on va enfin pouvoir mettre un visage, alors entre guillemets quand même, sur cet homme de Denisova, Jean-Jacques Hublin.
Enfin, en tout cas, un crâne, un cerveau.
Ouais.
Très probablement, on a mis la main sur des fossiles que l'on doit attribuer à ce groupe un petit peu mystérieux.
On vous voit prendre des pincettes, parce que ce qui est vraiment très étrange dans cette actualité, c'est que les chercheurs chinois, eux, n'évoquent pas du tout l'homme de Denisova. C'est la communauté scientifique, depuis la publication, qui a fait cette interprétation.
Oui, oui. J'allais dire moi le premier. Dès qu'il est question d'origine de l'homme et d'histoire des groupes humains, évidemment, il y a toujours une influence possible de l'idéologie, parfois même de la politique ou de la religion. Et ce qui est vrai, c'est que les Chinois, enfin en tout cas les paléanthropologues chinois, depuis plusieurs générations ont une vision assez particulière de l'évolution de l'homme, puisque dans le fond, ils prêchent pour une évolution locale depuis les formes les plus anciennes d'Homo erectus au-delà du 1,5 million d'années jusqu'aux habitants du Pékin moderne. Donc une évolution locale de l'homme sans qu'il y ait ces hommes modernes d'origine africaine qui viennent se mêler à tout ça.
Alors, il parle d'un homme archaïque. Quel est cet homme archaïque selon les auteurs qui publient, si on devait un peu rendre honneur à leurs travaux?
On a depuis assez longtemps identifié en Chine des fossiles, et ces nouveaux fossiles font partie d'un groupe plus vaste, des fossiles qui ne sont ni des Homo erectus ni des hommes modernes, qui sont archaïques, mais qui ne sont pas aussi primitifs que les Homo erectus. Et donc les chercheurs chinois, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans cet article, dans le fond tirent argument de l'existence de ce groupe qui embête un peu tout le monde depuis longtemps, pour justement soutenir cette idée d'évolution graduelle en Chine des hominines. En fait, ce groupe, on a depuis quelques années, depuis 2010, une idée beaucoup plus précise de ce qu'il pourrait être, puisque sur les données paléogénétique, donc sur l'ADN ancien extrait de fossiles qui viennent, alors non pas de Chine, mais de l'Altaï, pas très loin, on a identifié un groupe qui est le groupe frère des Néandertaliens. C'est-à-dire que pendant que les hommes de Néandertal évoluaient en Europe, eh bien, à partir d'un ancêtre commun, quelque chose d'un peu équivalent aux hommes de Néandertal aurait évolué en Asie.
Et ça, ce sont les Denisoviens ?
Et ce sont ces fameux Denisoviens, alors qui, jusqu'à présent, sont un peu mystérieux, puisqu'on les connaît par leur ADN, mais dans la grotte de Denisova, ils ne sont représentés que par des restes osseux très fragmentaires, des dents isolées, des petits fragments, comme en particulier ce fragment de phalange qui a permis le séquençage de l'ADN, du génome complet de l'homme de Denisova.
Elle est où cette grotte, Jean-Jacques Hublin ?
Alors la grotte de Denisova, je vous le dis, elle est dans l'Altaï. Le gisement dont on parle aujourd'hui, il est dans le comté de Xuchang, au sud-est de Pékin, dans le centre de la Chine.
Alors, Denisovien ou pas, qu'est-ce que nous apprennent de nouveau ces deux crânes ? Ils sont très bien conservés.
Surtout un des deux, oui, assez complet. Et ce qui est très spectaculaire, c'est que c'est un crâne avec un très grand volume endocrânien, donc un volume pour le cerveau qui est de 1800 millilitres, ce qui est énorme. Hein. La plupart des hommes actuels, ils ont des cerveaux autour de 1300, 1400 millilitres. Déjà, pour aller dans des tailles au-dessus de 1600, 1800, il faut chercher. Et c'est un caractère qu'on a aussi chez des Néandertaliens et aussi chez des hommes modernes anciens.
Est-ce qu'on pourrait pas tester l'ADN de ces crânes tout simplement pour voir s'il colle avec l'ADN trouvé à Denisova ?
Alors malheureusement, l'ADN fossile, l'ADN ancien, ne se conserve que dans des conditions de milieu assez particulières. En particulier, il faut une température moyenne, une température annuelle qui soit relativement basse. Et c'est pour ça que dès qu'on descend un petit peu vers le sud, eh bien on n'a plus d'ADN fossile conservé dans les restes de ce type.
Jean-Jacques Hublin, vous n'avez pas eu ces crânes entre les mains. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils appartiennent à cette famille des Denisoviens, alors exactement ?
Alors, il y a deux arguments. D'abord, ces Denisoviens, ils ont été identifiés dans l'Altaï grâce à l'ADN ancien, mais on sait que chez les hommes actuels, on retrouve un petit peu de cet ADN de Denisovien dans des populations qui vivent en Australie, en Mélanésie, dans le sud-est asiatique. Ce qui suggère que pour que le mélange entre cet ADN de Denisovien et puis l'ADN des hommes modernes qui sont sortis d'Afrique pour peupler ces régions se soit opéré, eh bien il faut que les Denisoviens aient existé ailleurs que dans l'Altaï, et en particulier dans le sud de l'Asie. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, ces Denisoviens ont existé depuis l'Altaï jusqu'à l'océan Indien et la mer de Chine, donc potentiellement en Chine. Ensuite, ces nouveaux fossiles, eh bien, ils présentent tous les caractères qu'on attend, dans le fond, dans un groupe qui serait le groupe frère des Néandertaliens. Ils ont ce grand cerveau, comme les Néandertaliens. Ils ont des caractères primitifs qui les différencient de l'homme actuel. Et puis, ils ont aussi quelques ressemblances avec les Néandertaliens, dans l'oreille interne, sur la morphologie externe du crâne, sur l'occipital, enfin, des détails anatomiques. Mmh. Et donc, je dirais, ils sont au bon endroit, au bon moment, et avec les caractères qu'il faut pour, dans le fond, être interprété comme un groupe frère des Néandertaliens, ce que sont les Denisoviens.
Et est-ce que d'autres découvertes faites en Chine pourraient faire penser aussi aux Denisoviens sans que les Chinois ne se soient posé la question ?
Alors, il y a eu déjà plusieurs publications. Je pense à l'homme de Mapa, je pense à l'homme de Xu Jiayao, qui ont prouvé qu'il existait des formes, toujours à peu près dans le même type d'âge, avec des caractères qui rappellent un peu les Néandertaliens, mais qui en même temps ne sont pas Néandertaliens. Et moi, je pense qu'on a déjà des Denisoviens dans nos tiroirs, mais à cause de l'incapacité d'identifier l'ADN de ces fossiles et de le comparer à celui de Denisova, eh bien, on ne peut pas mettre l'étiquette Denisovien dessus. Et je dois dire que les collègues chinois qui publient tout ce matériel font preuve d'une belle constance en évitant soigneusement de prononcer jamais le mot Denisovien dans aucune de leurs interventions et de l'écrire dans aucune de leurs publications.
Bon, en tout cas, c'est un nom que vous prononcez pour eux, comme beaucoup d'ailleurs de paléoanthropologues ailleurs qu'en Chine, à l'occasion de cette publication importante hein, quand même qui sort.
C'est un matériel tout à fait spectaculaire, tout à fait intéressant et surtout qui est attendu. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand on lit la presse ce matin, on se rend compte que dans le fond, tout le monde a un peu la même idée. En Europe, aux États-Unis, eh bien, on dit, bah voilà, finalement, on a mis la main sur les Denisoviens, alors qu'encore une fois, quand les auteurs sont interviewés,
ils n'en parlent
pas.
Ils
font leur maximum pour ne pas utiliser ce terme.
Bon, bah, des Denisoviens dans le tiroir, ce sera un très bon nom de roman, Jean-Jacques Hublin. Gardez ce titre pour vous. Et puis en attendant, on a cette publication qui vient de paraître dans Science. Merci pour votre éclairage et Axel, à lundi.
Bon week-end.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les chiens super efficaces pour renifler le cancer du sein. L'Institut Curie vient de dévoiler les résultats de son test préliminaire visant à mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses. Théo et Nikios, deux malinois du projet CADOG se sont montrés efficaces à 100% pour détecter les composés odorants dans des lingettes imprégnées de la sueur des 130 participantes. L'étude clinique, étape suivante pour valider ces tests canins, est prévue pour 2018. Elle nécessitera l'entraînement de deux nouveaux chiens et devrait permettre de tester la méthode sur plus de 1000 femmes. Des changements dans des bactéries intestinales de souris qui pourraient également modifier leur fonction cérébrale. Des chercheurs de l'université de Waterloo aux États-Unis ont transféré une partie du microbiote fécal de souris anxieuses sur des souris saines et ils remarquent qu'en plus de provoquer des troubles intestinaux, cette greffe s'accompagne des mêmes troubles anxieux que chez les receveuses, que chez les donneuses. Ce n'est pas la première démonstration de ce type de lien entre cerveau et intestin, mais c'est la première fois que des chercheurs se proposent de soigner les troubles anxieux via des traitements intestinaux. Des résultats à suivre. Et puis pour finir la semaine, on vous propose une vidéo intrigante de dinde postée sur Twitter hier. Un utilisateur du réseau social a été surpris de voir devant chez lui au petit matin une dizaine de dindes tourner inlassablement autour du cadavre d'un chat. Cette procession inattendue et fortement partagée sur les réseaux a également excité la curiosité de plusieurs spécialistes du comportement animal, chacun y allant de sa petite explication. Nous avons retenu celle de Alan Krakauer, biologiste à l'Université de Californie, qui évoque un cas déjà étudié d'inspection du prédateur. Les dindes normalement chassées par les chats tournent autour pour s'assurer que la menace est bien terminée et qu'elle ne court plus aucun danger. Cette vidéo intrigante est à voir sur le Facebook et le Twitter de la Tête au Carré.